Voilà, alors je suis très content d'être parmi vous pendant ce dimanche où on peut justement se retrouver pour louer ce Dieu qui est tellement extraordinaire pour ce qu'il a fait dans nos vies. C'est vrai que nous ne le méritons pas, cet amour, mais il nous l'accorde par grâce et nous pouvons jour après jour goûter à cet amour qu'il renouvelle à travers son esprit mais aussi à travers sa parole. Alors, je vais partager avec vous un texte qui est bien connu. C'est dans Luc, au chapitre 9, les versets 10 à 16. Luc 9, 10 à 16. C'est la multiplication des pains. On connaît tous cette histoire, et on peut juste dire, mais qu'est-ce qu'on va apprendre de plus ? Mais vous le savez, la parole de Dieu est vivante et elle a toujours tout à nouveau quelque chose à nous enseigner. Alors je vais lire le texte. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent, et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Et puis en introduction, j'aimerais lire avec vous Marc 1, 32. Marc 1, 32. Marc 1, 32 nous dit « Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. » Au verset 35, vers le matin, donc du même chapitre, hein, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Alors, c'est intéressant de voir que dans la vie de Jésus, il y avait très peu de repos. Hein, ces deux petits versets, le soir, après le coucher du soleil, et puis vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Jésus est quelqu'un de très occupé, mais qui ne se laisse jamais déborder par les événements et les situations. Sa priorité, c'est la relation avec son Père. Et on découvre ça tout au long de la vie de Jésus. Dans Luc 6 et au verset 12, il nous est dit là aussi que Jésus, il s'est retiré. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alors c'est toujours quelque chose qui nous semble un truc complètement aberrant, hein, à quelque part toute la nuit dans la prière. On se dit mais comment il a fait pour passer toute la nuit dans la prière? Nous on a déjà du mal à nous tenir un quart d'heure dans la prière, hein, mais toute la nuit dans la prière. Et pour quelle raison Jésus as-tu passé toute la nuit dans la prière ? Juste après le verset qu'on vient de lire, qu'est-ce que Jésus va faire ? C'est le choix des disciples. C'est le choix des disciples. Et il a passé toute la nuit pour prendre la bonne décision, choisir les disciples. Et d'autant plus que dans le nombre de ses disciples, il y avait un disciple qui s'appelait Judas et qui était un traître. Et je crois qu'il y a des situations comme ça où on a vraiment besoin d'une relation intense avec Dieu pour faire des choix qui sont parfois pénibles. Parce que qui est-ce qui aurait pris comme trésorier un Judas ? Hein ? Personne. Mais Jésus le savait, mais il l'a choisi. Il l'a choisi. Marc 3, 14 nous dit, et ça c'est intéressant parce que c'est des versets comme ça, on peut passer facilement à côté. Marc 3, 14, il nous est dit là, il en établit 12 pour les avoir avec lui. Il en établit 12, donc ses disciples, pour les avoir avec lui. Le but, c'est d'être avec Jésus. Il nous veut avec lui. Est-ce que nous sommes toujours conscients de la volonté de Jésus à nous vouloir dans sa présence ? Il nous veut parce qu'il nous aime et parce qu'il a un plan pour nos vies. Il veut nous former. Il veut nous former. Alors on va revenir à notre texte, c'est juste une petite intro pour montrer à quel point Jésus, il a de l'intérêt pour nous. Il nous veut avec lui. Et dans ce partage de cette multiplication des pains, c'est intéressant. Parce que ce miracle-là, il a quelque chose d'unique et de particulier à nous apprendre. C'est le seul miracle qu'on retrouve dans les quatre évangiles. Et moi, je pense que si les quatre évangélistes ont repris ce miracle, c'est parce que derrière, il y a quelque chose de très puissant à vivre. La parole de Dieu, elle n'a pas été écrite comme ça juste pour faire beau, mais la parole de Dieu est écrite pour notre instruction, toujours. Toujours. Et alors on va un petit peu voir ce qu'on peut découvrir dans cette histoire. Je vous rappelle le contexte, on l'a lu tout à l'heure, le contexte c'est des disciples qui reviennent d'une campagne d'évangélisation. Alors moi j'aime ça en tant qu'évangéliste, l'évangélisation. Hein, c'est mon ministère. Et les disciples reviennent d'une campagne d'évangélisation. Et on peut se mettre à leur place. Ils ont vécu des choses très fortes. Hein, et un peu plus loin, on va voir que quand ils reviennent, ils disent à Jésus, mais c'est extraordinaire, les malades sont guéris, les démons nous sont soumis, etc., etc. Et Jésus les prend à l'écart dans un lieu désert. Et ça, c'est intéressant, parce que Jésus veut nous prendre à l'écart. On a dit tout à l'heure qu'il en a établi 12 pour les avoir avec lui, mais Jésus veut toujours, tout à nouveau, nous prendre pour nous parler, pour nous enseigner. Et dans Marc 6, 31, c'est des passages parallèles au passage qu'on a lu dans Luc, hein. Il est dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Et moi ça m'interpelle ce verset, ils n'avaient pas le temps. C'est une phrase qui est à la mode aujourd'hui. On n'a pas le temps. Des fois, il vaudrait mieux dire « j'ai pas pris le temps » plutôt que de dire « je n'avais pas le temps ». Ça serait plus juste. Ça serait plus juste. Et moi, je me suis dit « quels sont les allants et le venant dans nos vies qui nous empêchent de nous retrouver avec Jésus ?» Nos journées sont tellement programmées avec un agenda chargé que parfois on peut partir dans une journée sans même avoir pris le temps de demander à Jésus de nous conduire dans cette journée-là. Quels sont les allants et les venants qui nous empêchent de manger, qui nous empêchent d'avoir cette nourriture spirituelle de tous les jours pour pouvoir aborder nos journées et pour pouvoir vivre dans la volonté de Dieu? Quels sont-ils? Il y en a tellement. On peut partir dans nos journées sur les chapeaux de roue et se retrouver le soir sans même avoir eu le temps de parler au Seigneur. Et ça, c'est dommage. Quels sont les allants et les venants? Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il les prend avec lui dans un lieu désert. Et là, il peut leur parler. Il peut leur parler. Jésus accueille les foules. Jésus prend le temps avec nous. Il prend le temps avec nous. Il prend le temps avec les foules. Et on le voit dans ce passage. Jésus est toujours disponible pour les perdus. Toujours disponible. Est-ce que nous sommes disponibles pour les autres? Tellement peu souvent, on doit le réaliser. Est-ce que je suis disponible pour les autres? Ah non, j'ai pas le temps. Ah, j'ai autre chose d'autre à faire. C'est quelque chose qu'on retrouve et c'est pourquoi dans nos vies, on doit vraiment veiller à avoir une discipline positive dans nos vies. Une discipline, elle peut être négative. Parce qu'on peut tomber sous la loi avec une mauvaise discipline. Mais une bonne discipline. Une bonne discipline. Jésus se laisse déranger. Il est disponible pour toi personnellement. Personnellement, le Dieu de l'univers est disponible pour toi. Moi, je trouve toujours ça extraordinaire. Quand je me retrouve face au Seigneur, je peux lui dire « Seigneur, tu es là pour moi ». Aujourd'hui, pour moi. C'est ça, disponible pour toi personnellement. Tu ne vas pas m'entendre te dire ce matin, vous êtes en communication avec le ciel. Si vous avez des problèmes de famille, tapez 1. Si vous avez des problèmes dans l'église, tapez 2. Pour obtenir un entretien avec Jésus, tapez 3. Pour l'évangélisation, tapez 4. Et pour toute autre chose, tapez 5. Et si vous vous êtes trompé, appuyez sur la touche étoile pour annuler. Ça, vous n'allez jamais l'entendre avec Jésus. C'est plus facile avec Jésus qu'avec certains opérateurs téléphoniques. Vous avez remarqué déjà. C'est ça qui est extraordinaire. Suis-je disponible pour mon prochain? Et Jésus va apprendre quelque chose de fondamental aux disciples dans ce passage. Mes capacités, elles viennent de lui. Pas de nous. Notre façon de vivre, si souvent, montre le contraire. Qu'on voudrait se débrouiller tout seul. On voudrait prendre le taureau par les cornes. Et puis finalement, là, le Seigneur, il n'a peut-être pas tout vu. Et moi, j'ai vu autrement. On veut conduire les choses parfois. Le verset 12 nous montre les disciples face à leurs limites. C'est intéressant, ce texte. Il nous est dit là, les disciples reviennent donc d'avoir fait des choses extraordinaires, je l'ai dit tout à l'heure, et je pense que dans leur cœur, il y avait un certain orgueil qui commençait à monter à cause de tout ce qu'il venait de vivre. Et moi, je me mets à la place des disciples. Et si je dis cela, c'est parce que dans le chapitre 10, donc le chapitre qui suit celui qu'on a lu, et au verset 17, il est dit « Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Comprenez ? Et il leur dit après « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Et là, à mon avis, Jésus leur dit « Attention, attention à l'orgueil quand on commence à faire des choses où Dieu a donné la possibilité à ses disciples de faire cela. Ça ne vient pas d'eux, ça vient de Dieu. La grâce ce matin qui nous permet de nous tenir ensemble, elle vient que du sacrifice de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Je ne peux rien prétendre pour m'approcher de lui ce matin. » Jésus les ramène à une juste réalité. Et c'est tout à nouveau comme ça dans nos vies, où Jésus nous ramène toujours à une juste réalité des choses. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça, on le sait, on l'entend des dizaines et des dizaines de fois dans une année. Et on le lit aussi dans la parole. Mais le plus gros obstacle dans nos vies chrétiennes, c'est nous. C'est moi. C'est ma façon de diriger ma vie. Et dans Apocalypse 3, je suis justement dans Apocalypse, dans ma lecture quotidienne et dans la méditation. Et dans Apocalypse 3, un texte aussi qu'on connaît bien. Apocalypse 3, versets 1 à 4, il nous est dit « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept Esprit de Dieu, les sept étoiles, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Vous voyez, ce passage, « Je connais tes œuvres. » Il connaît tout de nous. « Je connais tes œuvres. » Et dans ce passage, il y a une hypocrisie qui se dégage parce qu'il est dit « Tu passes pour être vivant. » Donc, tu fais comme si tu étais vivant, mais en réalité, tu es mort. Et ça, c'est important de réaliser que parfois on veut faire comme si. Mais la réalité, c'est quoi dans nos vies, hein? Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Et c'est pour ça que c'est important, quand on médite la parole, quand on l'enseigne, Dieu a quelque chose à nous dire. Même si c'est des choses qu'on connaît, Dieu a quelque chose à nous dire. Repens-toi, il est dit. Et quand tu te repens, eh bien l'ennemi, il a la bouche fermée. Il ne peut plus t'accuser. Mais s'il n'y a pas la repentance, l'ennemi va jouer avec toi. Et il va tirer les ficelles pour pouvoir t'affaiblir au maximum. Et c'est pour ça que Jésus, il les prend dans un lieu désert pour les enseigner et les ressourcer. Tellement important. Et là, on est dans la multiplication des pains, c'est de la nourriture. Verset 12, j'en reviens à ce verset, verset 12 du chapitre 9. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule !» Renvoie la foule. Quel contraste avec Jésus où lui, il accueille les foules. Quel contraste! Je vous ai lu exprès tout à l'heure en intro que Jésus était disponible à n'importe quelle heure du jour et de la nuit presque pour ses disciples. Et les disciples, ils viennent à Jésus, ils disent « Mais renvoie la foule !» Comprenez? Nous pourrions facilement être découragés en nous comparant à Jésus. C'est vrai. Mais nous pouvons tirer des leçons pour nos vies de l'enseignement de sa parole. C'est ça qui est important. Jésus nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces, nous dit 1 Pierre. 1 Pierre 2, verset 21. Renvoie la foule, c'est la solution de facilité. Ah ben oui, les disciples. Mais moi, je me mets dans la tête ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils reviennent d'avoir chassé les démons, d'avoir guéri les malades. Et moi, je me mets un peu dans la position de Jésus, à tout petit moment. Hein. Et je me dis, eh ben, puisque vous avez fait tout ça, donnez-leur vous-même à manger. Ça ne doit pas être un problème. Comprenez? Et derrière ça, il y a une petite ironie. Parce que Jésus leur a dit, le pouvoir, il vient de moi, il ne vient pas de vous. Et renvoie la foule. C'est le constat des disciples sans la puissance de Jésus. C'est le constat des disciples lorsqu'ils se laissent arrêter par toutes les situations visibles. Ils se laissent influencer par les circonstances qui sont là. Le texte nous dit, le jour est en train de baisser. L'excuse du temps. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le jour commence à baisser. Ouh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a au moins 20 000 personnes qui sont là. Et nous, on est paniqués. Hein, on est paniqués. Le jour qui baisse, nous dit le texte. Ensuite, le nombre de personnes. Imaginez, 5 000 hommes sans les femmes et les enfants, nous dit un autre texte. Hein? Et moi, je dis qu'il y avait à peu près 20 000 personnes là. Et imaginez qu'il y ait 20 000 personnes dans la rue, là. Ça ferait déjà du peuple. Hein? Et puis, il nous est dit que le lieu, il est désert. Vous aimez le désert, vous? J'ai pas dit le dessert, hein. J'ai dit le désert. Vous aimez le désert, non? Personne n'aime le désert. Parce que c'est un endroit qu'on préfère laisser de côté. Mais l'excuse du temps, une tâche immense, 20 000 personnes, ou peut-être plus, ou peut-être un peu moins, et l'endroit qui n'était pas attirant. Et alors les disciples, ils disent, mais renvoie, hein, Seigneur, renvoie la foule. C'est pas la peine de se casser les pieds. Renvoie-la. Hein? Mais Jésus veut apprendre aux disciples que dans le service pour Dieu, nous sommes constamment en formation. Formation continue avec Jésus, pas de chômage. Formation continue. Renvoie la foule. Moi, je me suis noté, quelle défaite. Quelle défaite pour les disciples. Par nos paroles, nos comportements, nous pouvons éloigner les gens de Jésus. Pourtant, il est le seul qui peut répondre aux réels besoins. Renvoie la foule. Les disciples voulaient renvoyer la foule loin de Jésus. Marc 6, 34, c'est un peu plus loin que le verset qu'on a vu tout à l'heure. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle. Voilà, les disciples renvoient la foule, pas de compassion. Et nous sommes si souvent comme ses disciples. Sommes-nous animés par cette compassion? Est-ce que nous sommes tombés peut-être dans une habitude, dans une routine de prendre les sauvés pour les sauver et les perdus pour les perdus, et de ne plus avoir d'objectif pour le salut des âmes? Et dans ce contexte, Jésus vient rajouter le dernier coup de massue au verset 13, « Donnez-leur vous-même à manger. » Alors là, je vois les disciples qui ne savent plus quoi faire, panique à bord. Qu'est-ce qu'on va faire? Donnez-leur vous-même à manger. 5 pains et 2 poissons. C'est tout ce qu'ils ont. Ils font l'état des lieux, c'est tout ce qu'ils ont. Ou plutôt, c'est tout ce qu'ils voient. C'est tout ce qu'ils croient avoir. Et c'est souvent là qu'on s'arrête dans nos vies. On s'arrête sur des réalités visibles qui vont miner complètement notre vie chrétienne. Alors que Jésus nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Jésus va montrer à ses disciples qu'ils doivent ressembler à ses pains et ses poissons. Que va faire Jésus avec les 5 pains et les 2 poissons? Eh bien d'abord, il va les prendre. Il va les prendre. Hein? Il va les prendre. Sommes-nous d'accord? Il est dit, Jésus les prit. Et en réalité, la grande leçon de cette histoire, c'est que nous devons devenir comme des pains et devenir et faire ce que Jésus a fait avec ses pains. Jésus les prit. Sommes-nous d'accord de nous laisser saisir par Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Philippiens 3:12 nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et le mot saisi dans le grec veut dire prendre possession. C'est fort comme mot. Prendre possession. Est-ce que Jésus a pris possession de nous? Est-ce que c'est vrai? Il a pris possession. Est-ce qu'il t'a saisi? Et l'as-tu laissé faire? Parce que c'est là le problème. C'est que nous nous laissions faire. Si Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Hein? Ça, c'est une phrase que j'avais entendue et qui est toujours restée et que je recite parfois, parce que je crois que c'est important de se le rappeler, que Jésus, il veut être le Seigneur de tout dans ma vie. Et on voit que Jésus, il a plus que... Sa volonté, c'est de nous avoir avec lui, de nous parler, de nous enseigner, de nous envoyer prêcher. Jésus les prit. La deuxième chose, Jésus les bénit. Alors ça, on aime plutôt bien qu'on nous fasse du bien. C'est ce que veut dire bénir, faire du bien. Et dans Genèse 1:28, la première chose que Dieu fait lorsqu'il crée l'homme et la femme, Genèse 1:28, il est dit, Dieu les bénit. C'est la première chose que Dieu a fait en créant l'homme et la femme. Et la dernière chose que Jésus fait avec ses disciples pendant qu'il est en train de remonter vers son Père, il est dit que pendant qu'il s'enlevait vers le ciel, il bénit ses disciples. C'est intéressant, hein? C'est la première chose qu'il fait et c'est la dernière chose que Jésus fait avant de remonter vers son Père. Il les bénit. Il veut nous bénir. Est-ce que vous le croyez? Hein? Est-ce que vous croyez que Dieu veut nous bénir? Proverbe 10:22, un texte qu'on connaît très très bien, C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et la traduction du rabbinat nous dit, pour la deuxième partie, « Et nos efforts n'y ajoutent rien. » Comprenez? Tous les efforts que je peux faire pour plaire à Dieu n'ajoutent rien à la bénédiction de Dieu. Le psaume 37, verset 22 nous dit « Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. » Et puis un passage que j'ai noté à propos de Joseph, dans Genèse 39, verset 5, « Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. » Voyez, on est une bénédiction pour ceux qui nous entourent. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Hein? Et si vous vous rappelez l'histoire de Joseph, Joseph, pendant 13 années, il a été abaissé. C'est pas 6 mois, hein? 13 ans d'abaissement pour qu'il apprenne à pardonner à ses frères. Et parce que Dieu avait prévu quelque chose avec lui, c'était de le mettre à la tête de l'Égypte. Hein? Et c'est ce que Dieu va faire. Et la bénédiction de Dieu, elle passe parfois par des moments difficiles dans nos vies. C'est pas forcément parce que j'entends bénédiction, il n'y a que le bonheur. Mais Joseph, il a subi 13 années d'abaissement, mais l'Éternel était avec lui. Attention, hein, c'est ça l'important. La bénédiction de l'Éternel enrichit, même si je ne comprends pas tout de suite le plan de Dieu avec moi et que je dois passer par des situations qui ne sont pas faciles. La bénédiction de Dieu enrichit. Troisième chose, Jésus a pris les pains, il les a bénis et il les a rompus. Il les rompit. Pour être utile entre les mains de Dieu, il faut accepter le brisement. Et ça, c'est tout un programme dans nos vies chrétiennes. Tout un programme. Et Dieu, il va permettre des situations dans nos vies pour que ce brisement puisse avoir lieu. Il va permettre qu'autour de moi, il y ait des gens, peut-être des collègues de travail, qui me cassent les pieds pour m'apprendre la patience. Ça, c'est pas évident hein, quand vous avez quelqu'un sans arrêt qui est énervant. On va apprendre la patience. Et peut-être même dans l'église, Dieu a placé des frères et sœurs autour de vous pour vous aider à mourir à vous-même. Hein? Et ça, c'est tout un programme. Mais ça, c'est le programme de Dieu pour nos vies. Tout découle de mon attitude que j'adopte avec Jésus. Tout découle de mon attitude. Qu'est-ce que je veux vivre avec Jésus? Si je l'aime, je vais me laisser façonner par le divin potier. Vous connaissez ce passage de Jérémie 18 où il y a le potier et l'argile, hein? Ce potier qui travaille l'argile. Et puis tout d'un coup, s'il y a un loupé, qu'est-ce qu'il fait? Il casse tout et il recommence. Il ne met pas à la poubelle. Dieu ne nous met jamais à la poubelle. Il recommence avec nous. Il est patient. Il nous pardonne. Il nous relève. Il nous encourage. On a entendu ce matin. L'encouragement, c'est tellement important dans nos vies. Il nous encourage. Il ne nous licencie pas. Il va nous garder à son service. Regardez Pierre, après son reniement. Jésus, il n'a pas dit, hey, après ce que tu as fait, c'est plus la peine de revenir. Hein. Non. Il lui a demandé, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? La base pour servir Dieu, c'est l'amour pour Jésus. Ce n'est pas toutes les capacités, c'est l'amour pour Jésus. l'amour pour Jésus. Et l'amour pour Jésus, ça passe par le brisement. Jean 12, verset 24, il est dit, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Moi, je n'imagine aucun agriculteur gardant son blé bien soigneusement dans ses sacs au lieu d'aller le semer pour qu'il meure en terre et que l'année prochaine, en ce moment, on voit le blé d'hiver qui pousse. Eh bien oui, il ne l'a pas gardé dans un sac, mais il l'a perdu à quelque part pour que l'année prochaine, il retrouve une multiplication de ses grains. On est dans la multiplication des pains, je vous le rappelle ici. Et Dieu a quelque chose à nous dire avec cette histoire. David dit dans le psaume 119, verset 67, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Ça fait partie de nos vies. Et Dieu va nous apprendre à compter sur lui dans les moments difficiles, va nous apprendre à renoncer à nous-mêmes pour le servir. Quand on brise quelque chose, ça fait toujours mal à quelque part. Mais Dieu a son plan avec nos vies. Et je ne peux pas passer à côté du plan de Dieu. Je peux essayer d'éviter tous les brisements que Dieu veut accorder dans ma vie. Je peux essayer de les éviter. Mais en réalité, je ne vais pas grandir. Je vais grandir que par le brisement et les situations dans lesquelles je veux pouvoir compter sur lui pour avancer. Et on est dans une situation difficile. Les disciples, en tout cas, doivent apprendre cette leçon à propos de ces 5 pains et ces 2 poissons. C'est le travail que Jésus accomplit dans nos vies à travers la croix. La mort à soi-même. Porter sa croix, eh ben, c'est bien ça. C'est accepter la croix, c'est un instrument de mort. Et porter sa croix, c'est accepter la mort à soi-même dans nos vies, pour pouvoir être utile entre les mains du Maître. Et puis, la quatrième chose qui va être fait avec ces pains, c'est qu'ils vont être distribués pour nourrir cette grande foule. Nourrir cette grande foule. Jésus nous forme de cette façon. Ce n'est pas pour nous laisser sur une étagère s'il veut nous former, mais c'est pour que nous soyons utiles pour les autres. C'est ça, la grande leçon de ce passage, c'est que Jésus veut que nous ressemblions à ses pains, c'est que nous nous laissions saisir, c'est que nous nous laissions bénir, c'est que nous nous laissions rompre et que nous nous laissions distribuer pour les autres. Le sel, si on le laisse dans le bocal, à quoi ça sert? Quelqu'un a dit, le sel en bocal, c'est comme le chrétien en local. Ça ne sert à rien. Et c'est ça. Le chrétien, il est là pour répandre la bonne odeur de Jésus-Christ, là où Dieu nous a placés. Ma vie va servir de témoignage pour les autres à partir du moment où Jésus se sera saisi de moi. Et on peut résister à Dieu. Je peux avoir compris tout le message du salut, mais je peux résister à Dieu et ne pas lui confier ma vie dans ma vie de tous les jours. C'est important que je sois ce pain qui a été rompu, brisé dans sa main, pour que je puisse être distribué pour les autres. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Si Dieu me le demande, c'est qu'il va aussi me qualifier pour le faire. Imaginez un seul instant que vous ayez un médicament qui guérisse tous les cancers sur la face de la terre et que vous le gardiez pour vous.
Ah,
hein? Hein? On dirait, mais c'est pas normal ça. Hein? C'est pas normal. Et nous, on a plus qu'un médicament pour guérir les cancers. On a la vérité, on a la solution pour être guéri du péché. C'est extraordinaire. On peut annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui libère encore aujourd'hui ceux qui sont captifs et dans la misère de ce monde. Quel privilège nous avons d'être ces porteurs de la bonne nouvelle, du pain de vie. Hein, le pain de vie. Conclusion. Dans ce récit, j'ai toute l'œuvre que Jésus va accomplir personnellement pour moi. Jésus s'est laissé prendre, il s'est laissé bénir à quelque part, s'est laissé rompre et il s'est laissé distribuer. Ces quatre choses, c'est le programme que Dieu a pour chacun et chacune de nos vies. Pour chacun, Dieu veut accomplir ces quatre choses. Et alors, nous allons devenir une nourriture pour les autres. Nous allons pouvoir nourrir les autres si j'accepte d'être rompu, brisé, distribué entre les mains du Seigneur. Moi, je trouve ça extraordinaire, ce passage qui nous révèle une puissance, un message profond pour changer nos vies, pour que nous ne restions pas comme nous sommes dans une habitude ou une routine de vie. Dieu nous appelle à quelque chose de glorieux. Être cette nourriture distribuée pour les autres. Et je vais terminer avec Romains 12, verset 1. C'est un verset qu'on connaît très bien. Vous le connaissez peut-être même par cœur. Ce verset, Romains 12, 1. Il est dit: « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà ce que Dieu veut faire avec nos vies. Hein? Que nous soyons dans sa main ce sacrifice vivant pour être utile là où Dieu nous a placés, dans cette ville de Darnay. Moi, j'aimerais vous encourager à persévérer à l'annonce de l'Évangile, parce que la parole de Dieu est victorieuse quand elle est prêchée et annoncée. Et moi, je vous encourage à continuer à persévérer, même si c'est un petit noyau. Eh bien, Dieu a un plan avec chacun et chacune d'entre nous, alors que le Seigneur vraiment vous bénisse. Prions ensemble. J'ai toutes mes feuilles qui sont... Je suis désolé. Que j'ai beaucoup de notes et de choses dans ma Bible. Prions ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous as rachetés à un grand prix. Tu n'as pas hésité à quitter ton ciel de gloire, là où tu étais dans la présence du Père, pour venir nous rencontrer. Et Seigneur, nous sommes émerveillés par cet amour que tu as pour nous. Tu nous l'as rappelé ce matin dans ta parole, rappeler que tu nous veux dans ta présence, tu veux nous former, tu veux nous transformer, tu veux nous enseigner, tu veux nous parler, tu veux nous reprendre, nous corriger, nous instruire. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous l'as laissée, nous pouvons l'ouvrir librement dans notre pays de France. Nous pouvons la lire, mais nous pouvons aussi en parler autour de nous. Merci pour ce grand privilège que tu nous accordes pour l'instant, cette liberté d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci pour ton plan dans chacune de nos vies. Merci pour mes frères et sœurs ce matin qui sont là et qui s'attendent aussi à toi dans leur vie. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as un plan précis pour chacun d'entre nous. Tu nous as donné des dons différents, mais tu veux utiliser ces dons pour que la bonne odeur de Christ soit répandue autour de nous. Merci, Père, de nous garder pendant cette journée et de renouveler nos cœurs et nos pensées en toi. Amen. Amen.